Radio Rageuse. Une nébuleuse d'émissions féministes en construction.
Et ben, du coup, après ces premières perles du monde médical qui étaient assez, qui parlaient d'elles-mêmes, elles étaient montées aussi avec le morceau "Au Bondage Up Yours" de X-Ray Specs, et on va continuer avec notre plateau.
Et du coup, voilà pour cette soirée Radio Rageuse sur la santé. On va commencer par une première partie un peu sur la santé sexuelle, avec peut-être un peu des questions autour de la question de la réduction des risques et tout. Et pour ça, on a trois invités avec nous sur le plateau. Et ces trois invités font partie de l'association FRIS. Donc on va peut-être commencer par dire ce que c'est FRIS, et puis vous pourrez vous présenter chacune, dire qui vous êtes. Alors déjà, FRIS, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça vient d'où ce nom?
Alors l'acronyme, c'est Femmes, Réduction des Risques et Sexualité, sans S, puisqu'on parle de la sexualité humaine, puisque pour FRIS, les pratiques ne font pas identité pour tout le monde, et loin de là. La réduction des risques, c'est vraiment dans une démarche de donner les informations aux personnes pour qu'elles s'en saisissent et puis qu'elles s'en servent quand elles en ont besoin, en vie, selon l'âge, les moments, les rencontres, les situations particulières.
Et du coup, trois invités. Alors, je ne sais pas qui commence par se présenter.
Daniel.
Daniel.
Bah, Daniel, parce que j'ai commencé à causer, donc. Donc, je suis la coordinatrice de FRIS, c'est-à-dire que j'essaye de coordonner à la fois les demandes de financement, les actions, et puis de faire un peu de cohésion dans tout ça.
Ok, donc Marquise, nouvellement administratrice de FRIS. Voilà, pour moi un projet un peu différent, donc faire, vu que les subventions baissent et rebaissent dans la santé communautaire ou la réduction des risques, essayer de choper d'autres modes de financement, et un peu plus dans les actions de terrain, un peu plus sur le 1er décembre, pour ma part, donc la journée internationale de lutte contre le sida, dit la Sainte-Yves.
Ouais, on aura l'occasion de parler un peu plus tard des actions que vous faites.
Alors moi c'est Florence, je suis au conseil d'administration de FRIS depuis pas très longtemps, depuis ce printemps. Mais en fait ça fait longtemps que je suis en lien avec l'asso parce que j'ai longtemps travaillé dans une asso de santé communautaire qui était très en lien avec FRIS et qui avait participé à la création du programme. Mais ça du coup c'est peut-être un truc que Daniel va vous expliquer en vous disant un petit peu comment s'est créé l'asso.
Ouais, on voulait justement commencer par un historique un peu de l'association, parce que c'est parti sur quel constat la création de FRIS? Qu'est-ce qui vous a poussé, motivé?
C'est parti sur une rencontre. Nous étions trois d'associations différentes lyonnaises. Donc il y avait Corinne Monet pour Cabéria, moi pour Rupture et Isabelle Millon pour Coupe contre le Sida, à assister à un colloque à Paris en 97. Ce colloque avait un nom épouvantable, il s'appelait Femmes et infections à VIH en Europe. Mais il n'empêche que c'est la première fois que les épidémios nous ont démontré que les femmes n'étaient pas contaminées qu'en Afrique. Qu'il y avait des femmes vivant avec le VIH, des femmes qui se contaminaient en Europe. Et donc, les recommandations de ce colloque, c'était de mettre en place des actions de réduction des risques avec et auprès des femmes. Donc, il y a le MFPF qui a monté son programme réduction des risques sexuels. Puis nous, qui sommes redescendus à Lyon et avons fait appel aux copines, c'est-à-dire Anagia Adridi du Planning, et puis à Nadine Chopin, qui était, et ça a été fort utile à l'époque, chargée d'une mission sociale SIDA à la DASH du Rhône. C'est-à-dire qu'elle était chargée d'aller expliquer à ses collègues assistantes sociales que c'était pas la mort qui rentrait dans leur bureau s'il y avait une personne vivant avec le VIH qui venait leur demander quelque chose. Donc c'était vraiment cinq féministes qui ont fait appel à leurs copines. Qui pouvaient être chercheurs, médecins ou simplement intervenantes de terrain pour monter un programme d'action.
Et c'était quoi alors ce programme d'action?
Alors le programme d'action c'était...
Quelle action?
Ben d'abord on pensait, on était très naïves, on pensait qu'il suffisait de sensibiliser les professionnels, les militants, et leur expliquer ben, que la plus grande cause de la contamination des femmes, c'était la violence des rapports sociaux de sexe, de race et de pouvoir. Pour nous, c'était évident. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des tollés dans la salle parmi les professionnels. On a fait 2 demi-journées comme ça. Et à la fin, ce qui nous a été demandé, c'est de mettre en place des sessions de formation. Donc, ce qu'on continue à faire. Et puis, après, on a développé d'autres types d'actions, plus sur le partage d'expériences et des ateliers auprès de différents publics, les ateliers santé sexuelle et psychotropes. Donc, auprès de publics où on est peu nombreux à aller, les jeunes sous main de justice, les personnes en situation de handicap, les femmes demandeuses d'asile, les personnes vivant avec le VIH, voilà. Et la richesse de Frise, c'est que dès le départ, il y a toujours eu des tox, des putes, et qu'est-ce que j'oublie ? Et des trans, voilà. Donc ça, ça nous a aussi beaucoup poussé à ben, nous renouveler sans cesse, quoi, à prendre les gens avec les savoirs qu'ils avaient. C'est-à-dire la posture de Frise, c'est de considérer que toute personne a des savoirs et des ressources et qu'on est là juste pour partager, en fait. On n'est pas là pour apporter une bonne parole.
Et au niveau de vos actions actuelles ou futures, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Ouais, en fait, il y a 2 actions. Je pense que Daniel va pouvoir plus en parler pour l'action d'Octobre Rose,
ouais.
qu'elle manage de manière absolument géniale, avec toute la ressource qu'elle peut avoir. Et moi, je pourrais plus parler du 1er décembre, qui est plus ma partie, voilà, donc Daniel, ou même Flo, si jamais tu veux parler.
Non, bon. Peut-être on va commencer dans l'ordre chronologique.
Mais,
commence,
je pourrais parler après.
Rose.
Dans l'ordre chronologique, donc pour le 23 octobre, dans le cadre d'Octobre Rose, mais à la marge, en s'intéressant au public qui a le moins accès à l'information, on veut sensibiliser et faire voir que les lesbiennes et les trans boys et girls sont très loin de tout ce type d'information. Leurs besoins en termes de cancer du sein, de dépistage, d'information, ne sont jamais vraiment pris en compte. C'est en tout cas ce qui est vécu et qu'elles disent. Donc pour ça, on fait un défilé manifestation. C'est notre troisième année de partenariat avec l'école S-Mode Lyon, qui vont nous faire des modèles customisés avec des soutiens-gorge. Et nous, de notre côté, on met nos soutiens-gorge sur nos têtes, on les customise également. Et on va défiler donc de la place de l'Opéra jusqu'à la place Bellecour et retour par la rue de la République. Voilà, en distribuant des flyers d'information pour attirer l'attention sur des publics qui sont à l'écart de ce type d'information.
Ouais, pardon. Juste pour préciser, en fait, c'est que les transboys ou transgenres F2X n'ont pas forcément envie d'avoir une mastectomie. Donc ils sont susceptibles de subir un cancer du sein, et que les transgirls ayant une hormonothérapie de substitution, comme c'est dit de manière ultra barbare, sont aussi susceptibles d'avoir un cancer du sein, et qu'il n'y a absolument aucun message d'information ou de réduction des risques ou de prévention envers ces populations qui clairement sont aussi susceptibles d'avoir ce genre de cancer. C'est généralement ce genre d'information est prévu pour les femmes de plus de 50 ans à 75 ans et généralement hétérosexuelles. Et voilà, et vraiment la mission de Frise, c'est vraiment de visibiliser ces publics-là, parce que c'est ultra important qu'ils et elles aussi se préoccupent de ce cancer, enfin je pense.
Oui, et puis c'est quelque chose aussi qu'on pourra voir dans la suite de l'émission, parce que par exemple, parmi les perles du monde médical, qui a aussi un peu un partage d'expérience, je sais qu'il y en a pas mal sur des expériences gynéco et qui montrent que, en tout cas, là, dans les témoignages qu'on a, pour les lesbiennes, c'est souvent un rapport vraiment pas facile. Mmh. La visite gynécologique au niveau de l'accueil, des préjugés, des stéréotypes que les médecins peuvent avoir, du coup, dans ce genre d'examen, quoi.
Et juste, moi, j'aurais aimé dire un mot sur les formations. Ce qui me semble intéressant à Fris, c'est que les formations, elles sont ouvertes à tous et à toutes, et que du coup, il ne faut pas forcément être un pro de la lutte contre le sida, il ne faut pas forcément avoir un projet professionnel autour de ça. C'est un lieu où pendant quelques jours, on va se questionner sur comment ça se fait, pour essayer de comprendre comment les rapports sociaux de sexe ils vont intervenir dans la sexualité et du coup dans les pratiques préventives, et puis aussi comment la question par exemple des psychotropes elle va impacter différemment les hommes ou les femmes ou d'autres personnes ou etc. Et du coup voilà, c'est plutôt des moments qui sont des moments d'échange, qui sont des moments qui sont ouverts à tout le monde et où on apprend plein de choses parce qu'il y a un peu des gens qui sont il y a un peu des experts qui viennent, genre un peu des sociologues, des gens qui ont plein de bagages et tout ça, mais il y a aussi des gens qui sont là et qui participent, et c'est vraiment autour d'un truc d'échange entre les personnes, et qui fait que chaque personne aussi est un peu experte de sa situation et a quelque chose à apporter. Et ces formations, c'est vraiment ouvert à tout le monde, donc si vous avez envie d'apprendre des choses ou de raconter des choses ou de vous avez soif de partager des expériences autour de ça, autour de comment les rapports sociaux de sexe ils ont un impact dans la sexualité, dans la prévention et dans plein d'autres choses, et ben les formations de Fris, elles sont ouvertes.
Et du coup, vous en faites souvent, parce que oui, tu disais, Daniel, que ces formations, c'est vraiment l'histoire de Fris, quoi. Mmh. Dès le début, vous avez fait ça.
Alors, elles ont un peu évolué, alors en termes de nombre de journées et de format. C'est-à-dire qu'on a toujours une formation classique qui s'appelle genre santé sexuelle et psychotropes, puisque pour nous, les psychotropes font partie de la sexualité dans la mesure où il n'y a aucun lieu de rencontre, alors que ce soit homo ou hétéro, public ou privé, où il y ait... où il n'y a pas d'alcool, à minima. Hein, la preuve ce soir ici. Bon.
Effectivement, le partage, l'échange.
Donc pour nous, c'est vraiment lié tout ça. Il y a un autre format qui. Alors il y en a une qui va avoir lieu à Saint-Étienne les 17, 18, 19 novembre chez nos amis d'Actis. Qui est sur promotion de la santé sexuelle, avec plus des parties théoriques le matin et des ateliers l'après-midi. Là, c'est sur 3 jours. Troisième type de session qui a eu beaucoup de succès et qu'on n'a pas pu faire depuis 2 ans, qu'on refera en février, c'est une session counseling, genre et réduction des risques, puisque notre intervenante est rétablie. Donc, on va pouvoir recommencer.
Ah, c'est trop bien.
Ça, c'est vraiment un truc pour être à l'aise avec les gens, c'est super.
Bah, pour dire mon expérience personnelle, j'ai eu la chance de faire une formation Fris il y a déjà pas mal d'années. Et justement, par rapport à ce que tu disais, Flo, je trouvais ça vraiment hyper intéressant que ça soit ouvert à des personnes qui sont pas des professionnels, etc., de la santé. Et j'avais vraiment trouvé, au niveau de ce qui se passait dedans et de la diversité des participantes, que c'était hyper riche et classe, quoi.
Oui, cette façon aussi de valoriser le fait qu'il n'y a pas que les professionnels qui font ce travail-là de prévention et que nous aussi, dans nos réseaux militants, dans nos réseaux politiques, on peut aussi faire ce travail-là, en fait, de parler de sexualité et de parler de comment on se protège et de comment on fait attention à nous. Et c'est vrai qu'avoir accès à ces formations-là, ça a permis à plusieurs d'entre nous de pouvoir développer des projets aussi dans nos réseaux à nous. Et c'est une manière, je pense, d'encourager... toutes les personnes qui auraient envie, c'est cool, quoi.
Il n'y a pas que dans les participantes des formations. Cette année, j'ai été la première fois formatrice de cette formation, alors que je n'ai aucun diplôme, j'ai bac-1. Par contre, mes 15 ans d'expérience de militante et de réduction des risques et d'écoute et d'accueil, j'ai été considérée comme une formatrice comme les autres. Et donc, c'est pas que pour les participants, c'est aussi pour les personnes qui ont vraiment des choses à dire Voilà quoi, c'est ultra important.
Et du coup, tu voulais aussi nous parler justement de cette action pour le 1er décembre ?
Ah bah oui, parce que le 1er décembre, enfin à Lyon, cette année, va ne pas être cantonné à la place des terreaux avec une chaîne de solidarité et des petites bougies organisées par AIDS. Mais il va y avoir une rencontre, une espèce de rassemblement place des terreaux à midi, avec un communiqué de presse sur les personnes sans papiers malades. Clairement, ultra important, avec un déploiement, me semble-t-il, du ruban de Nova, un ruban rouge de 12 mètres. Une petite procession, j'espère, festive, mais il est midi, donc ça risque d'être compliqué pour le festif. Un lundi matin, direction...
okay.
Direction Harris, hein, avec la mise en place du ruban rouge sur la façade d'Harris.
Et... Tu peux peut-être dire ce que c'est Harris
Okay, c'est le centre LGBTI, j'allais dire le Q, mais par habitude. Rue des Capucins, avec en même temps l'inauguration de l'exposition Fil de vie, fil de mémoire, exposition d'objets par des personnes vivantes du VIH, des personnels de santé en présence de personnes vivantes du VIH et d'autres structures comme Nova et voilà. Avec un diaporama des différentes images du 1er décembre à travers les âges et à travers les pays. J'essaie d'en récupérer pas mal. Et après, on vire tout le monde, parce que ça, c'est bien beau, c'est les financeurs. Et après, à partir de 16h-16h30, c'est place à l'apéro Céro Solidaire. Et là, c'est ce qui est le plus important. Donc, c'est un moment de détente, de rencontre entre les personnes vivant avec le VIH, toutes les personnes vivant avec le VIH, et ceux qui les aiment. Avec, apparemment, il va y avoir un espace de massage détente, un apéro, des prises de parole de personnes vivantes de VIH qui vont nous parler de leurs expériences. Et un petit peu de bouffe, un petit peu de conneries. Les sœurs qui seront là forcément, donc beaucoup de paillettes. Hein. Et voilà, quoi. Donc à peu près jusqu'à 21h, je pense. Mais ça, on verra bien à quelle heure on ferme le lieu. Plus il y a de monde, plus c'est intéressant.
Juste pour compléter, il y aura aussi un atelier pour imaginer une pilule contre la sérophobie. Aux États-Unis, c'est un peu un moyen de communiquer. On met des bonbons et puis on imagine que c'est une pilule contre l'homophobie, par exemple. Et c'est l'image, c'est Harvey Milk avec son histoire derrière. Voilà, c'est un peu ça qu'on va essayer de refaire en imaginant une pilule contre la sérophobie. Et juste pour compléter ce qu'a dit Marquise, le dress code du rassemblement Passe des Terreaux, c'est en noir avec un grillage quelque chose sur la figure ou un foulard pour faire penser aux camps de rétention dans lesquels sont parqués les personnes malades avant d'être expulsées.
Ok, et si on veut vous contacter par exemple pour avoir plus d'informations sur les futures actions, sur l'asso, sur les formations, ça se passe comment ?
Alors, soit par mail, alors toujours le vieux mail fonctionne, FRI2SE, frise@free.fr. Ça fonctionne, sinon le téléphone c'est le 04 78 30 74 48.
Et pour la génération Y, hein, Facebook, Fris Asso ou Association Fris. Voilà, il y a deux pages pour le moment, mais il va y avoir une refonte des deux pages, mais c'est pas encore. C'est dans le tuyau, mais pas encore prêt. Mais voilà, donc sinon, c'est donc Fris Asso ou Association Fris sur Facebook.
Donc, ça, c'est comme ça qu'on peut vous contacter si on veut plus d'infos sur vos actions ou si on est intéressé par vos formations et par ce que vous faites dans l'asso. Et est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour conclure ou, je ne sais pas, compléter quelque chose sur l'asso ?
Juste peut-être redire ce que pour nous signifie la santé sexuelle. Alors, très vite, hein, on essaye de critiquer la définition de l'OMS. Mais on se situe quand même dans ce cadre-là. L'OMS, elle dit la santé sexuelle, c'est des problèmes concrets. Les grossesses non désirées, donc ça veut dire qu'on parle d'avortement et de contraception. Les IST, ça veut dire qu'on parle de réduction des risques. Tout ce qui est coercition, et là ça devient politique, parce que c'est le droit de choisir d'avoir des enfants ou pas, le droit de choisir son compagnon, l'histoire des violences, etc. Et les dysfonctions sexuelles. Et là, on rentre en plein dans le,
Les dysfonctions sexuelles justement, d'après l'OMS.
C'est une définition qui a été faite par les sexologues. Donc, on pense tout de suite à la panne d'érection chez les messieurs. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'ils ont parlent de dysfonction, ça veut dire qu'ils ont défini une fonction optimale. Donc c'est la question qu'on se pose à Fric. Qu'est-ce que c'est que cette fonction?
Tu veux dire, est-ce que c'est avoir un orgasme ou procréer?
Voilà, exactement. Donc voilà. Mais c'est dans ce cadre-là qu'on essaye de critiquer aussi des choses.
Et du coup, comment vous définiriez la santé sexuelle par...
C'est être libre de ses désirs, de ses plaisirs et des plaisirs. Là, on le voit beaucoup avec les personnes en situation de handicap qui ont des désirs, des plaisirs et des déplaisirs. Et la santé sexuelle, pour eux, c'est une vraie question parce que c'est leur corps et leur tête.
Eh bien, ça me semble une belle conclusion. Merci beaucoup à vous trois de Fris d'être venus ce soir. On va enchaîner avec une nouvelle perle des professionnels de la santé. À la technique, on me fait signe que plus ou moins.
Avec une petite musique en transition, puis une petite surprise encore. Direct.
Alors, une musique, une surprise et une perle voilà. Qui plutôt sera sur, autour des méconnaissances des médecins encore et tout ça. Et après, on enchaînera avec la troisième partie de l'émission qui sera plus sur la santé communautaire, les politiques de santé, tout ça. Je sais que vous auriez aussi beaucoup eu à dire, mais... Voilà.
D'autres diront très bien.
Merci en tout cas.
Oui, merci.
Merci de nous avoir invités.
Radio Rageux sur Radio Canu, la plus vieuse des radios. Radio Rageux sur Radio Canu, la plurielle des radios.
Deficiente, 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 defic fuerza solamente con idea y que me aleja de las tinieblas de la muerte y que me levanta cuando me siento desnuda. Quien en tu cara escupe verdades desenmascara,
quien destraba tu garganta con la fuerza de un volcán.
Les perles des professionnels de santé.
Alors du coup, moi je voulais parler d'une anecdote qui m'arrivait dans un CDAG. Donc le CDAG, c'est le centre de dépistage anonyme et gratuit. Et donc j'y vais pour un dépistage, je sais pourquoi j'y vais et ce dont j'ai besoin. J'arrive à l'accueil et là en fait la secrétaire me colle devant un ordi en me disant qu'il faut que je m'inscrive sur l'ordi pour entrer dans la file d'attente. Et l'ordi me pose des questions, il y a une dizaine de questions sur mes pratiques, quels sont les risques que je pense avoir pris, enfin tout ça. Et là, en fait, petit à petit, je me rends compte que c'est l'ordi qui est en train de remplacer le médecin et de me faire un diagnostic avec une prescription sur de quel test de dépistage j'ai besoin. Ça me sort un ticket, ça m'indique qu'il faut que j'aille voir directement l'infirmière et du coup, avec ma prescription pour le test. Sauf qu'en fait, quand je regarde, manque de bol, c'est pas du tout le dépistage pour lequel je suis venue, quoi. Et donc j'en discute avec l'infirmière, tout ça, ça a pris du temps. Je lui dis que c'est pas du tout pour ça que je suis venue, que du coup j'aimerais bien voir un médecin. Et en fait elle me dit, ouais mais là il est presque midi et du coup il y a plus... les médecins sont certainement partis déjeuner, quoi. Donc je discute, je bataille, j'explique ma situation, que je suis venue pour quelque chose de précis et que du coup j'aimerais quand même rencontrer un médecin. Et donc vraiment ça a pris du temps, une dizaine de minutes où on discute de ça. Et donc je finis par obtenir de voir un médecin et donc là je parle avec le médecin en lui disant mais franchement maintenant c'est un ordinateur qui fait les prescriptions et qui fait le premier entretien, enfin c'est quand même hallucinant. Donc ils me disent que c'est pour des histoires de budget et que du coup c'est comme ça qu'ils déterminent un peu, ils font le tri, quoi. Donc moi je me disais mais j'ai de la chance parce que moi je me sentais de parler de ma situation et de batailler avec ça et tout, j'avais quand même des informations qui me permettaient aussi de pouvoir le faire en confiance, quoi. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les personnes pour qui c'est pas le cas? Et puis du coup est-ce que du coup la stratégie ça va être de répondre n'importe comment à leurs questions sur l'ordinateur pour pouvoir avoir ce pourquoi on est venu, quoi.
Il y a quelques années, j'avais des douleurs de règles très fortes. Donc du coup, en gros, pendant 5-6 jours, à chaque fois que j'avais mes règles, j'étais immobilisée, je vomissais, je tombais dans les pommes. C'était vraiment insupportable. Et du coup, j'ai vu plusieurs gynécos qui me proposaient systématiquement la pilule. Et j'ai testé ça pendant un mois, mais c'était vraiment pas cool parce que ça me faisait vraiment des effets secondaires forts, notamment de la dépression. C'était vraiment pas cool. Du coup, et à chaque fois que je retournais chez un gynéco, on me proposait toujours cette solution et même on me culpabilisait de ne pas prendre la pilule en me disant que c'était ça la solution et donc que si je ne la prenais pas, je l'avais bien cherché d'avoir mal et tout. Et du coup, il y a quelques années, je bossais en saison et du coup, j'en avais vraiment marre d'avoir mal en même temps que je bosse. Du coup, je vais voir un généraliste un peu au pif vu que j'étais pas dans ma région. Et je lui demande deux choses, en gros. qu'il accepte de me faire un arrêt de travail quand j'ai mes règles, parce que c'était vraiment trop horrible de bosser avec ça. Et aussi qu'il me donne des antidouleurs bien plus forts pour que vraiment ce soit efficace et que je m'en sorte un peu plus. Et en fait, il refuse tout ça et il me dit que en fait, avoir des douleurs de règles, c'est normal. C'est que toutes les femmes, elles ont ça et que j'ai pas à me plaindre. Que j'ai qu'à m'y faire, ça sera... et que en fait, je dois sûrement être très sensible pour trouver ça difficile, puisqu'il y en a plein qui s'en sortent, et que jamais il me fera un arrêt de travail pour ça, parce qu'il va pas mettre en arrêt toutes les femmes qui ont leurs règles, quoi. Ça se fait pas. Et quand t'as à prendre de la morphine pour ça, faut pas exagérer quand même.
Il y a quelques années, j'ai eu une inflammation d'une de mes glandes de Bertholin. Alors les glandes de Bertholin, on en a deux et elles se situent à l'entrée du vagin. C'est des glandes qui permettent de produire la cyprine qui sert à lubrifier le vagin. Au moment où je vais en consultation à l'hôpital pour cette inflammation, je n'ai pas toutes ces informations et je ne sais pas du tout ce que c'est une glande de Bertholin. Le gynéco me dit que cette inflammation, c'est pas très grave, ça arrive, et c'est pas grave parce qu'on sait pas trop à quoi servent ces glandes, que c'est un peu comme l'appendice, ça s'enflamme, c'est interne. De toute façon, on en a deux, donc on n'a qu'à procéder à l'ablation de cette glande. Au moment de la consultation, je ne sais donc pas à quoi ça sert, et j'accepte de me faire opérer. c'est là, il n'y a pas longtemps, que j'ai découvert en fait à quoi servait la glande de Bertholin. Et là, ça m'a fait une impression terrible. J'ai eu comme l'impression d'avoir subi comme une mutilation. Et surtout, j'ai contribué à véhiculer des informations fausses puisque je répétais ce que ce médecin m'avait dit. En tous les cas, maintenant c'est fait et puis vive le lube.
Alors, dans le cadre d'un parcours trans, je suis allée voir un chirurgien gynécologue de l'équipe officielle de Lyon, qui m'avait notamment été conseillé par une médecin féministe pour demander une hystérectomie. Donc, il est d'accord, il m'explique le protocole à suivre. Et je commence à discuter sur les modalités de l'opération parce que tout ne m'allait pas. Et il n'a pas supporté que j'ai quelque chose à redire à ses modalités et à son protocole qui est toujours identique. Et je lui ai demandé notamment s'il pratiquait l'hystérectomie par voie basse, parce qu'une médecin amie m'en avait parlé, et c'est-à-dire une anesthésie locale, ce que je préférais. Et là, il me répond « Non, pas pour des gens comme vous ». Alors là, je le regarde dans les yeux et lui demande ben, « Pourquoi pas ?» pour des gens comme moi. Là, il m'explique que des gens comme moi, on a un petit vagin, car nous n'avons jamais vécu de pénétration. Là, je le regarde avec étonnement et je lui dis bah, que si, et je me dégonfle pas. À partir de là, il me dit que je suis pas encore mûre pour cette opération et qu'il est important que je retourne voir un psychiatre. Donc voilà, moi je lui dis que je suis très sain d'esprit et on finit par s'embrouiller. Ce qui me met en colère dans cette situation, c'est la manière dont les chirurgiens peuvent s'ériger en spécialistes de type de population donnée et véhiculer des énormes clichés en étant persuadés de la véracité de leurs dires.
Je vais chez la gynéco pour me faire poser un stérilet. Je n'ai pas encore eu d'enfant. Je lui explique que je veux arrêter la pilule que je prends depuis 7 ans parce que ça change trop de choses. Mais enfin, la pilule n'a aucune incidence sur le corps. Le débat commence. Nous parlons des vaccins. La consultation se termine par « Espèce de naturopathe, c'est à cause de gens comme vous qu'il y a une recrudescence de tuberculose dans le bassin parisien. » Je pars sans payer.
Du coup, moi, quand j'ai eu 19 ans, j'ai dû prendre un rendez-vous à l'hôpital pour me faire faire un prélèvement gynécologique là, dans le vagin. Je me fais accueillir par du coup, un gynéco de l'hôpital, un mec d'une soixantaine d'années, qui m'accueille froidement, me demande de me mettre à poil, d'écarter les jambes sur sa table et d'être à l'aise. Je m'exécute. Moi, je suis toujours assez stressée des examens gynécologiques. Et vu l'accueil, là, ça m'aide pas trop. Du coup, il essaye de me rentrer un premier spéculum en métal dans le vagin. Ça marche pas. Je suis hyper contractée. Il essaye avec un plus petit. Ça passe toujours pas. Ça me fait mal. Je suis vraiment trop contractée. Et là, il s'étonne et il me dit... Il me demande si je suis vierge. Du coup, je lui réponds que non, que juste je suis assez stressée des examens gynécologiques. Et là, il me dit, c'est pas possible, vous êtes vierge. En gros, il me croit pas. On répète ce dialogue absurde, là, deux ou trois fois. Du coup, je me retrouve à justifier que si tout va bien, je me prends régulièrement des bites dans le vagin. J'ai une vie sexuelle normale et tout ça et tout ça. Super agréable. Et là-dessus, il finit par me dire que si réellement c'est le cas, c'est que j'ai un problème de déformation au vagin. Du coup, je repars en pleurant, persuadée que tous mes problèmes de sexualité du moment s'expliquent par le fait que je suis pas normale et que je suis déformée du vagin.
Radio Rageuse. Une nébuleuse d'émissions féministes en construction.
Elle péta les plombs, complètement, absolument. Pas de retour en arrière, marre de toute cette merde, le chaos, destruction. C'est quoi cette histoire de sexe chromosomique? Non mais sérieux? ça ne lui parlait pas du tout. Elle avait besoin de soutien. Elle se mit donc en quête d'autres personnes avec qui échanger, d'autres freaks qui n'en pouvaient plus de la soi-disant génétique. Elle reprit son souffle. L'idée de ce collectif à venir lui rendait la respiration. Elle se voyait comme une guérisseuse. Et elle cherchait d'autres sorcières comme elle. D'autres corps fabuleux, hors normes, magiques. Des corps portant de similaires cicatrices. Des corps marqués, des corps bancals, des corps abîmés, des corps en marge. Ces corps, ensemble, allaient se répandre, comme une épidémie. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on somatise, que ce n'est rien. C'est là, les souffrances sont réelles, pas de division corps-esprit. Et il y a urgence là, elle n'en peut plus d'attendre. Elle sort enfin de cette paralysie dans laquelle cette société hostile l'avait confinée. Plus rien ne peut interférer entre elle et son propre corps, le désir qu'elle a de se l'approprier, de le modifier, de le réinventer. Elle ne sera plus jamais séparée de son corps, plus séparée d'elle-même et des autres écorchés, des autres anormaux. Elle se sent forte. Ce corps qu'elle dit sien, composé de tant d'autres êtres, de bactéries avec lesquelles il danse, redessine les contours d'une existence en fusion. Qu'on ne vienne pas lui dire qu'elle sort de la cuisse de Jupiter. Elle invente ses propres lois, ses désirs s'impriment sur son corps. Un tel besoin de crever l'abcès, de sortir du silence, de crier ce corps étouffé trop longtemps. Enfin.